Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonne année au nom du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse tous pour cette année nouvelle. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans l'Épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3. Épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, et nous voulons lire les versets 12, 13 et 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Le titre de notre prédication de ce matin, la course chrétienne. Et j'aimerais partager quelques pensées avec vous sur le thème suivant, courir de manière à remporter le prix. Souvent, dans ses épîtres, l'apôtre Paul compare la vie chrétienne à une course d'obstacles. S'il le fait, ce n'est pas seulement parce qu'il assistait parfois aux compétitions sportives de la Grèce antique, mais surtout pour nous faire remarquer, finement d'ailleurs, que la vie chrétienne n'est pas une quelconque promenade, mais une course d'endurance qui requiert toute notre attention et toute notre participation. En effet, pour lui, selon le Seigneur, la course chrétienne est une constante et persévérante progression vers le but, en dépit de tous les obstacles qu'elle aura à affronter et à surmonter. Mais tout en exhortant dans ce sens, Paul laisse entendre que l'arrivée n'est pas ici-bas et que, par conséquent, la remise des prix ne se fera que là-haut. Ainsi, puisque nul ne peut prétendre à la perfection ici-bas, nous sommes tous concernés, tous appelés à progresser vers le but, vers le ciel, sans détour et sans relâche, jusqu'à ce que nous nous trouvions en face de notre bien-aimé Sauveur et qu'en le voyant, nous soyons rendus semblables à lui pour toujours. C'est pourquoi, frères et sœurs, courir au but et courir de telle manière à remporter le prix, telle sera notre devise tout au long de la course, et cela jusqu'à ce que nous franchissions en vainqueur la ligne d'arrivée. Et par rapport à notre thème, trois aspects de cette course retiendront notre attention ce matin. Premier aspect, le passé. Et par rapport au passé, Paul nous dit ceci: oublions ce qui est en arrière. Il ne fait pas de doute que, d'après le contexte, c'est son passé de pharisien orgueilleux et de persécuteur fanatique que Paul voulait oublier. Cependant, ce qu'il veut nous dire dans son témoignage, me semble-t-il, c'est que le passé, quel qu'il soit, ne doit pas, en aucune manière, ni à aucun moment, nous empêcher de courir la course chrétienne de manière à remporter le prix. En effet, comment Paul pourrait-il oublier ce passé douloureux qu'il mentionne plusieurs fois dans ses épîtres? D'ailleurs, on n'oublie pas ce qui nous a marqué dans le passé, mais on fait plutôt l'effort de ne plus y penser, sachant que ce passé est réglé une fois pour toutes par l'œuvre de Jésus. Selon que Paul lui-même le dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, dépassées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Ceci est très important, dans le sens où l'apôtre sait très bien avec quelle habileté le diable voudrait nous faire trébucher, en nous rappelant ce que nous avons été autrefois, ou ce que nous avons fait ou pas fait, dit ou pas dit dernièrement, pour que nous tombions dans son piège perfide et que nous pensions à des choses néfastes pour notre âme. Nous imaginons que Dieu ne peut plus nous aimer, puisque nous sommes si mauvais, si méchants, que notre cœur est tortueux par-dessus tout, et que de surcroît, Dieu nous a abandonnés, nous considérant comme des êtres humains irrécupérables, méritant pleinement ce qui nous arrive. Frères et sœurs, il est évident que nous ne méritons rien, que nous ne mériterons jamais rien, et que c'est par pure grâce que nous avons été sauvés, à cause de l'amour infini de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix. Mais maintenant, que nous sommes nés de nouveau, que les choses anciennes sont passées, et que toutes choses sont devenues nouvelles, sachons-le une fois pour toutes, et croyons-le de tout notre cœur, rien, non jamais rien, ne pourra changer cet état de fait. Car Dieu est fidèle. Il ne peut se renier lui-même, puisque ses promesses sont oui et amen en lui. En effet, si Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore ses ennemis, à combien plus forte raison maintenant que nous sommes ses amis, que nous sommes ses enfants, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus-Christ ? Ou en Jésus-Christ. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils pour nous sauver, comment n'achèverait-il pas la bonne œuvre qu'il a commencée en nous pour le jour de la rédemption? N'a-t-il pas promis que rien, ni personne, ne pourra nous arracher de sa main? C'est pourquoi, chers amis, marchons dans la lumière comme Dieu lui-même est dans la lumière. Ainsi, le sang de Jésus-Christ nous purifiera de tout péché. Confessons nos péchés sans attendre, car Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ne traînons pas de lourds boulets derrière nous. Déchargeons-nous de tout fardeau, soyons libres de tout péché, car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, par la connaissance de la vérité. Et puisque nous avons de si merveilleuses promesses de salut, une si grande espérance, ayons confiance en Dieu et purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, et achevons notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Par conséquent, fortifions-nous dans la grâce de Dieu et par sa force toute puissante, surmontons les obstacles, rejetons les convoitises qui font la guerre à notre âme, résistons au diable avec une foi ferme, triomphons des tentations en veillant et en priant constamment et soyons motivés par l'amour de Dieu qui ne fait jamais défaut. Alors, rien de ce qui appartient au passé ne pourra nous arrêter. Le malin se tiendra loin de nous et nous courrons avec joie et courage dans la carrière que Christ nous a ouverte et nous remporterons le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Deuxième aspect de la course, le futur. Par rapport au passé, Paul avait dit, oubliant ce qui est en arrière. Et maintenant, par rapport au futur, Paul nous dit, me portant vers ce qui est en avant, pas me laissant aller, me portant vers ce qui est en avant. Et qu'y a-t-il en avant? Pas des belles choses, hein, humainement parlant. Devant nous, devant nos yeux éblouis par l'éclat de sa gloire, il y a la couronne étincelante de la vie éternelle. Et cette couronne céleste dépasse et surpasse toutes les couronnes terrestres. Jésus lui-même la mettra sur le front des vainqueurs. Et c'est là le prix de notre vocation céleste en Jésus-Christ. Ah, qui peut décrire la grandeur, la splendeur de la cérémonie de la remise des prix? Que ce sera beau, que ce sera grandiose, quelle fête, quelle joie, quel bonheur lorsque Jésus se lèvera de son trône de gloire et s'approchera de chacun de nous et mettra sur chacun de nos fronts la couronne du vainqueur en disant « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confie beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Qui ne voudrait pas entendre de telles paroles prononcées par Jésus lui-même? C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors Jésus fera toutes choses nouvelles. Les anciennes n'existeront plus. Ce sera la félicité pour toujours auprès de Jésus et l'on ne se quittera plus. Voilà le prix de la course et voilà ce qui est en avant. Ah, qui peut dire ce que sera l'éternité, les nouveaux cieux, la nouvelle terre où la justice habitera? Qui peut dire ce que sera cette nouvelle humanité vivant dans un monde nouveau, pas comme celui-ci, un monde sans peur, sans haine, sans violence, un monde où la paix, où le bonheur régneront dans le cœur des hommes à jamais? C'est très difficile à concevoir, hein? Comment pouvons-nous imaginer une telle chose? Mais voilà le prix de la course. Voilà ce qui est en avant. Frères et sœurs, ce paradis, ce ciel de gloire, cet héritage qui nous est réservé dans les cieux, ce royaume éternel dont Jésus sera le roi, tout cela et plus encore, infiniment plus, n'est pas une illusion, mais la réalité. Et cette réalité dépassera et de loin tout ce que nous pouvons concevoir. En effet, si ce n'est que pour une illusion vaine et trompeuse que Jésus a souffert la croix, si ce n'est que pour un paradis chimérique que les apôtres et tous les croyants de tous les temps, Abraham et nous y compris, ont combattu le bon combat de la foi, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Et Jésus se serait laissé entraîner dans une lutte irréelle contre le diable et le péché, mourant en vain sur le bois maudit, puisqu'il n'y aurait pas de résurrection, pas de salut, pas de paradis, pas de joie infinie, pas d'héritage céleste, pas de royaume éternel. Bref, tout cela ne serait que mirage, et Dieu ne serait qu'une imagination de l'esprit. Je comprends un peu mieux pourquoi David a écrit dans un psaume « Le fou dit que Dieu n'existe pas ». Mais maintenant, Jésus est ressuscité. Et celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous ressuscitera aussi. Et bientôt, très bientôt, nous verrons notre bien-aimé Sauveur et Seigneur face à face. Et nous serons pour toujours avec lui dans sa présence ineffable, recevant de Dieu notre Père notre héritage éternel, celui qu'il nous a réservé dans les cieux pour prix de notre foi. Et pour remporter ce prix, N'en vaut-il pas la peine de courir vers le but? Fortifié et encouragé par les promesses immuables de Dieu, qui, par l'Esprit, rend cette espérance vivante en nous. Une espérance vivante qui ne trompe pas, qui ne déçoit pas, parce que c'est une attente qui se réalisera à coup sûr. Et nous arrivons au troisième aspect de notre course chrétienne. Après le passé, oubliant ce qui est en arrière, le futur me portant vers ce qui est en avant, il y a le présent. Et que dit-il par rapport au présent? Je cours. Je cours, sous-entendu, de manière à remporter le prix. En considérant et en contemplant le prix de la vocation divine, Paul pouvait affirmer avec joie et avec assurance, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. En disant cela, il veut nous rappeler que notre présent est fondé sur notre passé réglé par Christ. Que notre avenir est sur notre avenir, pardon, assuré par Christ. Je reprends. Paul veut nous rappeler que notre présent est fondé sur notre passé réglé par Christ et sur notre avenir assuré par Christ. Ainsi, la boucle est bouclée. Et comme toute vie, notre vie chrétienne a un commencement dans le passé, un passé réglé par Christ, un développement dans le présent, un présent libéré par Christ, un aboutissement dans le futur, un futur assuré par Christ. Que voulons-nous de plus? Que souhaiter de meilleur? Que désirer de plus extraordinaire, de plus glorieux, de plus prodigieux? Notre passé adamique qui nous condamnait, non plus. Notre avenir dans la gloire nous est formellement réservé. Et notre présent terrestre nous est facilité en Jésus. Par la puissance de l'esprit de vie qui est en lui et qui nous délivre de la loi du péché et de la mort, afin que nous vivions dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Dans un stade, nous dit Paul, tous les athlètes courent, mais un seul remporte le prix. Et le vainqueur n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Dans la course chrétienne, la victoire n'appartient pas au plus intelligent, ni au plus fort, ni au plus riche, ni au plus considéré. Mais la victoire appartient à tous ceux qui courent fidèlement, conformément à la parole de Dieu, dans tous les domaines de la vie, et qui, par-dessus tout, mettent en pratique le grand commandement de l'amour. Car le grand commandement de l'amour résume tous les commandements. 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne fait pas le mal, l'amour ne se vante pas, etc., etc., etc. L'amour ne peut pas faire le mal. Mais il y a encore une règle essentielle à la vie chrétienne que j'aimerais mentionner ici. Une règle de doctrine dans laquelle nous avons été livrés au jour où le Saint-Esprit nous a scellés en vue de la rédemption. Cette règle, c'est notre consécration à Dieu qui nous a sauvés. C'est l'offrande de notre vie sur l'autel de la grâce, sacrifice agréable au Seigneur et culte raisonnable à l'égard de Dieu. Cette règle, lorsque nous la suivons, manifeste notre participation à la nature divine. Elle témoigne de l'engagement de notre foi, de notre volonté à fuir la corruption qui existe dans ce monde et de notre désir ardent d'être continuellement transformé dans l'esprit de notre intelligence afin de pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et de la pratiquer, cette volonté divine. Cette règle, vous l'avez deviné, c'est la mort au péché et la vie pour Dieu. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et la sanctification ici consiste en fait à ne plus vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont enfants de Dieu. En effet, même en tant que chrétien, notre tendance est de suivre les penchants de notre nature charnelle et pécheresse, et les œuvres de la chair sont alors la débauche, le dérèglement, les passions, les mauvais désirs, l'idolâtrie, la cupidité, les querelles, les envies, les jalousies, le mensonge et tout ce qu'il peut encore y avoir. Et toutes ces choses sont contraires au désir de l'esprit, qui veut que nous fassions mourir ces éléments terrestres pour nous attacher aux choses d'en haut plutôt qu'à celles qui sont sur la terre. Et pourquoi ? Parce que nous sommes morts au péché. Et que par conséquent, nous sommes appelés à maintenir par la foi tous ces éléments charnels dans la mort, afin de vivre une nouveauté de vie pour Dieu, selon sa parole, par la puissance de vie qui est en Jésus, pour accomplir la justice de Dieu. Et pourquoi ? Parce que Dieu avait une lubie ? Parce que Dieu veut nous embêter ? Nous faire souffrir ? C'est une souffrance, oui, dans un certain sens. L'apôtre Paul dit dans cet épître, « Ainsi j'aurai communion aux souffrances de Christ et à sa puissance. » Parce que désormais, nous sommes libres de la loi du péché et de la mort. Et que dans cette liberté, nous pouvons et nous devons nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Et revêtir l'homme nouveau, qui se renouvelle de jour en jour par la puissance de celui qui l'a créé, Jésus notre Seigneur et Sauveur, mort et ressuscité pour nous. À cet effet, l'Écriture nous enseigne ceci. Devant chaque tentation, nous sommes exhortés à nous considérer librement, volontairement, comme morts au péché, et simultanément comme vivants pour Dieu, c'est-à-dire aptes à surmonter les tentations et à triompher d'elles par la foi, afin de vivre dans la victoire de l'Esprit. Car là où est l'Esprit, là est la vérité, là est la liberté, c'est-à-dire la capacité de faire la volonté de Dieu, non par nous-mêmes, mais par la grâce de Dieu qui crée en nous, le vouloir et le faire. Comprenons bien ceci. Notre part dans la sanctification, c'est de travailler à notre sanctification. C'est de faire tous nos efforts, nous dit l'Écriture, 2 Pierre 1, pour joindre à notre foi l'obéissance à la volonté de Dieu. La part de Dieu, à l'instant même où nous mettons en œuvre notre obéissance, je dis bien à l'instant même où nous mettons en œuvre notre obéissance, c'est de créer en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, selon sa divine puissance qui nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et ce combat se renouvelle chaque jour, car il n'y a pas en nous de puissance en réserve. L'Esprit de Dieu est là, mais il ne vient à notre secours que lorsque nous combattons selon la pensée de Dieu, selon les règles ou selon la règle essentielle de la course. Considérons encore cela. N'attendons pas jusqu'à ce que nous éprouvions des sentiments particuliers ou jusqu'à ce qu'une force mystérieuse nous entraîne d'elle-même. Cela n'arrivera pas. Mais obéissons de tout cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force aux exhortations divines. Par exemple, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, c'est-à-dire travaillez à votre sanctification. Ou bien encore, c'était Philippiens 2, 12, 13, ou bien encore 2 Pierre 1, faites tous vos efforts. À cause de la corruption qui existe dans le monde, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la patience, à la patience la tempérance, à la tempérance la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour. Faites tous vos efforts, 2 Pierre 1, travaillez à votre salut, non seulement avec crainte et tremblement, non seulement pendant ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Je reprends. Obéissons de tout cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force aux exhortations divines que je viens de mentionner, et il y en a encore beaucoup d'autres, des dizaines d'autres. Et croyons, obéissons de tout notre cœur et en même temps, immédiatement, croyons fermement, sans douter, que Dieu nous donne sa puissance pour accomplir sa volonté, même si nous ne sentons rien. Car il est fidèle et ses promesses s'accomplissent toujours. En d'autres termes, faisons tout notre possible, alors, et alors seulement, Dieu fera l'impossible. Et il ne manquera pas de le faire. Nous ne cherchons pas à faire l'impossible. Faisons notre possible, et notre possible est rendu et facilité par la puissance de Jésus. Je répète ces textes tellement importants. La puissance, la loi, ou bien si vous voulez, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, afin que la justice de Dieu soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Je répète encore une fois ce qui est important. Il n'y a pas besoin de comprendre comment les choses se passent. Ne cherchez pas à comprendre comment ça se fait que d'un côté je dois travailler et puis de l'autre côté c'est Dieu qui fait. Ne cherchons pas à comprendre, ça nous dépasse. Personne ne pourra jamais comprendre cela, c'est impossible. Nous sommes appelés d'abord à obéir de tout notre cœur à ses injonctions, à ses exhortations et en même temps à croire fermement, sans douter, que Dieu nous donne sa puissance pour accomplir sa volonté. Chaque fois que dans la tentation, je me suis laissé aller et que j'ai dit, de toute façon, Seigneur, je suis faible, je n'y arriverai jamais. J'ai gagné, hein? Ah, mais non, j'ai échoué. Mais chaque fois, sans aucune exception, où j'ai combattu selon les règles, ou selon la règle essentielle, mort au péché, vivant pour Dieu. Oui Seigneur, devant la tentation, je reconnais que je suis mort au péché, tu l'as dit, je le suis, et je veux vivre pour toi. À l'instant même, lui donne la force. J'ai jamais rien senti. Jamais, jamais, jamais rien senti. Mais la force est là. La force est là même si je ne sens rien. La force est là même si je pleure. La force est là même si j'ai mal. La force est là, elle est toujours là. Car c'est impossible que Dieu mente. Quand il dit, si tu travailles à ton salut, je crée en toi le vouloir et le faire, c'est que c'est vrai. Si il dit, Dieu nous donne tout par sa puissance, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, quand je fais tous mes efforts pour joindre à la foi, la vertu, la connaissance, etc., etc., c'est que c'est vrai. Sa divine puissance, c'est même écrit, nous a tout donné. Et nous précisons. Il ne s'agit pas ici de l'éradication totale du péché, ni d'un perfectionnisme quelconque, ni de l'anéantissement de notre nature adamique. Mais simplement et sincèrement, il s'agit ici de courir de manière à remporter le prix de la foi. Moi le premier, j'en ai le plus besoin. En nous soumettant à la règle de doctrine qui détermine toute notre vie chrétienne. Et si parfois nous manquons le but, Dieu nous pardonne volontiers. Comment un père ne pardonnerait-il pas à son enfant qui le sert fidèlement, même s'il fait une bêtise? Et Dieu est mille fois infiniment plus élevé que notre Père terrestre. Aucun Père terrestre. Si parfois nous manquons le but, Dieu nous pardonne volontiers et nous invite à recommencer encore, et toujours jusqu'au jour de la rédemption finale. De plus, ne l'oublions pas, la sanctification n'est pas la condition de salut. Mais elle prouve notre justification devant Dieu, car la foi sans les œuvres est morte. Comme le sarment qui ne porte pas de fruits, qui est coupé, jeté dehors et brûlé. Rappelons-nous encore que Dieu notre Père est plein de compassion, plein de bonté, plein de patience. Pour nous, il se souvient que nous ne sommes que poussière. Il ne nous traite pas selon nos péchés, mais nous éduque. Nous forme par son esprit et par sa parole pour la course chrétienne à laquelle il nous a appelés, afin que nous remportions le prix de la vocation céleste qu'il nous a confiée. Nous tous donc, qui contemplons la face du Seigneur, qui méditons sur son œuvre à la croix, qui considérons son amour infini à notre égard, qui plongeons nos regards dans la loi de la liberté, nous sommes heureux dans notre activité et nous attendons avec joie, dans la joie de l'Esprit, le retour de Jésus. De plus, pour tous ceux qui auront été transformés de gloire en gloire en l'image de Jésus, qui auront marché de victoire en victoire, même s'il y a des chutes entre deux, mais qui auront marché de victoire en victoire, la récompense sera grande dans les cieux. Car je le dis encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit, les vainqueurs ce ne sont pas ceux qui tombent jamais, ce sont ceux qui se relèvent toujours. C'est pourquoi il est dit qu'ils auront marché de victoire en victoire. La récompense sera grande dans les cieux, car ils auront couru de manière à remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi donc, nous aussi, soyons les imitateurs de l'apôtre Paul. Faisons une chose. Oublions ce qui est en arrière, portons-nous vers ce qui est en avant, et courons de manière à remporter le prix de notre foi. Amen. Que Dieu nous bénisse tous pendant cette année.